aujourd'hui la masterclass d'Éric Rochant avec Olivia Gesbert.
Masterclass saison 2, pour ne pas se louper, après le succès de la saison 1, on a fait appel à un showrunner pour tenter de connaître un peu ses trucs, profiter surtout de son savoir-faire. Alors un showrunner, qu'est-ce que c'est ? C'est un créateur de série, un cumulard, auteur, producteur, il supervise chaque étape du processus de création. Entré aujourd'hui dans la chambre noire d'Éric Rochant, la fabrique intime de son œuvre. Il est sorti de l'IDEC La Fémis et il frappe vite et fort, avec Présence féminine d'abord, César du meilleur cours en 88, puis Un monde sans pitié en 89, prix Louis de Luc, et César de la meilleure première œuvre, une génération à bout de souffle, des idéaux en deuil portés par Hippo, souvenez-vous. Si au moins on pouvait en vouloir à quelqu'un, si même on pouvait croire qu'on sert à quelque chose, qu'on va quelque part, mais qu'est-ce qu'on nous a laissé ? Des lendemains qui chantent, le grand marché européen, on n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça, c'est pire que tout. Suivront Aux yeux du monde, puis Les Patriotes, premier pied, osé, dans le contre-espionnage, ensuite Anna Oz, ou La science des rêves, Vive la République, le spectacle est politique, ou encore Mobius, un thriller amoureux. Filmo incomplète, mais c'est pour arriver un peu plus vite au Bureau des légendes avec vous, notre meilleure série française qu'il a mis sur les rails de Canal en 2015. 3 saisons, bientôt 4, peut-être 5. Légendes comme ces fausses identités que les services de renseignement fabriquent pour protéger leurs agents en mission à l'étranger. La DGSE l'a-t-elle d'ailleurs conseillé pour que ça ait l'air aussi vrai ? Ils étaient d'accord pour que je leur pose des questions, dira-t-il, même s'ils n'ont répondu à aucune. Un culte du secret peut être contagieux, on va pas tarder à le savoir, place maintenant aux questions. Si Rochant y répond, il est cinéaste. S'il ne répond pas, Rochant est une légende. Éric Rochant, bonjour.
Bonjour. Non, si je suis une légende, je répondrai. Parce que sinon, je suis grillé. Donc, je répondrai pas la vérité.
Dans vos films, on devient espion par cooptation, Éric Rochant. Et dans la vie, comment est-ce qu'on devient cinéaste ? Par vocation ?
En fait, c'est très long de devenir cinéaste parce que c'est pas au premier film qu'on l'est. On se demande même à quel moment on l'est. Je pense que au bout de quelques films, on commence à se dire que peut-être on est cinéaste. Mais en même temps, cinéaste, ça veut rien dire. Vous savez qu'il y a une polémique. Enfin, il y a pas une polémique. Il peut y avoir une lutte, un combat sémantique sur est-ce qu'on dit, par exemple, au générique d'un film, est-ce qu'on dit je suis metteur en scène, on dit mise en scène, réalisation. Je sais que quand j'étais à l'IDEC avec Arnaud Desplechin et Pascal Ferrance, on était vraiment un trio très soudé et on avait comme ça des débats idéologiques, esthétiques. Voire éthique, extrêmement violent, de savoir s'il fallait mettre metteur en scène, réalisateur.
D'ailleurs, Arnaud Desplechin, qui se dit fabricant de films, vous avez choisi quoi ?
Ça peut être une coquetterie, je pense. Hein. Mm-hmm. Mais non, bah, écoutez, moi, je...
Vous gardez réalisateur ?
Je garde réalisateur, oui. Je garde réalisateur, mais dans la réalisation, il y a quand même une grosse partie de mise en scène. Cinéaste, bon, pourquoi pas.
Mais alors là, c'est tout pas... ça ne me dit pas pourquoi vous êtes devenu cinéaste.
Alors pourquoi je suis devenu cinéaste ? Peut-être qu'il faudrait peut-être mieux dire comment, déjà, enfin, disons d'où ça vient, d'où c'est parti. On peut dire que, d'abord, je suis né dans une... Enfin, ma famille était assez fan de cinéma. D'abord, j'ai voulu être cinéaste, faire du cinéma depuis très, très, très jeune. Je pense qu'à l'âge de 13 ans, je voulais déjà faire du cinéma. Et c'est né évidemment de la cinéphilie, donc c'est né de l'amour des films. Mais d'où est venu l'amour des films ? Pourquoi j'ai tellement aimé le cinéma et pourquoi ensuite j'ai voulu passer de l'autre côté ? C'est-à-dire, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse. Bon, ça a à voir aussi, ça a à voir avec probablement une obsession de la maîtrise chez moi. Donc, voilà, quand je vais au restaurant et que j'aime bien un plat, j'ai envie de le faire chez moi ensuite, si je peux. Donc, j'imagine qu'ayant vu des films, j'ai eu envie d'en faire ensuite. Ça a à voir aussi avec le fait que, par exemple, mon père et mon oncle adoraient le cinéma. J'ai été donc très petit. J'ai été voir des westerns au quartier latin avec mon père. Donc c'était lié effectivement probablement à un plaisir d'enfant. Mon premier film, c'est un film de Walt Disney, évidemment. Le premier film que j'ai vu en salle, c'est un film de Walt Disney. Et donc du coup, c'était Mowgli d'ailleurs. Enfin, c'était le livre de la jungle. C'était un émerveillement total. Donc il y a déjà un émerveillement d'enfant. Lié à des émotions familiales et des émotions d'enfants. Et puis ensuite, il y a probablement une obsession de la maîtrise qui vient de on ne sait où. Et à la fin, il y a le désir déjà de faire du dessin animé. Donc j'ai voulu faire du dessin animé d'abord. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'avais une petite caméra à 8 mm que j'avais piquée à mon père. Et donc je faisais des dessins, plein de dessins pour faire des dessins animés. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'on pouvait faire de l'animation avec des objets. Donc on pouvait faire image par image, faire bouger une bouteille comme ça. Et à la fin, elle bougeait vraiment toute seule. Donc il y avait un côté très magique dans le cinéma. Et en faisant bouger des objets, et en utilisant des copains, je me suis dit, pourquoi pas faire du cinéma, c'est plus vaste. Donc voilà, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'est des films.
Mais dans votre tête, vous êtes du genre à vous faire des films ?
Je crois que j'ai pas mal d'imagination. Ce qui est pour le meilleur et pour le pire, c'est que des fois j'imagine les situations les pires. Par exemple, quand je suis en avion, je peux vraiment voir l'accident qui va arriver. Donc c'est absolument abominable. Quand je dis je les imagine, c'est vraiment je les mets en image, c'est-à-dire je les vois. Voilà. Alors des fois je vois des très belles choses, hein, mais je vois aussi les catastrophes malheureusement. Donc c'est assez angoissant. Mais bon, c'est peut-être aussi ça qui explique que. Que je raconte des histoires et que voilà, que j'essaie de faire au mieux pour ça.
Donc à partir du moment où on se fait des films, on se dit qu'on pourrait peut-être en faire des films, des vrais. Peut-être un jour un Air Force One qui se crache quelque part dans l'histoire d'exorciser.
la question qui est assez importante de se poser, c'est de savoir comment on passe de patient à agent, comment on passe de spectateur à acteur, comment on passe de l'autre côté. Ça, c'est vraiment une question intéressante et c'est une question qui est assez complexe. Par exemple, sur le bureau des légendes, je dirige une partie de mon travail, c'est de diriger une équipe d'écriture. Et évidemment, ce qui va être compliqué, c'est de les faire passer de leur admiration, de leur respect pour la série et de leur connaissance pour la série à un statut où ils vont pouvoir le faire eux-mêmes. Et ça, c'est très compliqué. Et en fait, non seulement c'est très compliqué, mais c'est un tout petit peu magique. Enfin, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est très difficile de l'expliquer à quelqu'un, de faire passer de l'autre côté. Il y a des gens qui sont super bien, super capables de parler très bien d'un film ou d'une série. D'ailleurs, les critiques de cinéma, par exemple, peuvent très bien parler d'un film. La plupart sont incapables d'en faire. Et donc là, il y a vraiment c'est quelque chose d'irréductible et qui a à voir avec la création, évidemment, qui n'est pas l'analyse, qui n'est pas qui n'est pas l'observation. L'acte de création est en fait complètement déconnecté de cette observation. Et pourtant, cet acte de création se nourrit d'observation. Par exemple, moi, je me nourris des films que j'ai vus, je me nourris de toutes les références, pas seulement des films, mais donc on se nourrit de toutes les références, mais ce n'est pas ça qui explique pourquoi on passe de l'autre côté. Donc c'est pas non plus, en fait, c'est pas la cinéphilie qui explique pourquoi j'ai commencé à faire des films. Mes films sont nourris de ma cinéphilie, mais c'est pas ça qui l'explique.
Juste avant d'en venir au processus de création, à pourquoi vous faites des films et ce que vous racontez avec vos films, Éric Rochant, on vous sent assez solitaire dans ce milieu du cinéma. Mais est-ce que c'est possible vraiment d'avancer, voire de survivre en franc-tireur dans ce milieu ? Est-ce que c'est important aussi à ses débuts d'être d'une manière ou d'une autre parrainé, d'être entouré, d'appartenir à une famille de cinéma ?
Créer quelque chose, c'est la solitude. On est seul avec ce qu'on fait, ça c'est clair. Même si le cinéma a tendance à être un peu collectif, c'est vrai que quand on fait un film, et en particulier ce qu'on appelle un film d'auteur, on est un peu seul, on est seul à écrire, on est seul à corriger, on est seul à faire le film, et en fait on est seul à l'assumer, on est seul à le penser, et on est seul à le porter. Donc il y a une vraie solitude, alors que ça demande vraiment la collaboration de beaucoup de gens. On peut imaginer des créations collectives et collaboratives, mais en gros on est seul. Bon. Donc cette solitude, j'imagine qu'elle est difficile à vivre. Donc on essaye de se sentir un peu moins seul en se faisant des amis dans le milieu et en essayant de discuter avec les uns avec les autres de ce qu'on fait, de partager. Bon, moi, j'appartiens pas à une famille du cinéma. Effectivement, encore une fois, j'ai fait l'IDEC avec Arnaud et Pascal Ferrand. On était très proches les uns des autres. Et puis après l'IDEC, on s'est un peu éloignés, on se revoit de temps en temps. Je pense qu'il y a des choses encore qui sont en commun, puisqu'on a quand même appris en commun, on a appris, et on est né au cinéma, enfin on est devenu adolescent du cinéma, ensemble. Donc, mais on n'est pas une famille. Bon, moi, je n'ai jamais eu besoin de pallier l'angoisse de la solitude, de la création, par l'appartenance à une famille.
Qu'est-ce qui nourrit votre imagination, celle qui est débordante, celle que vous évoquiez à l'instant? Certains disent les livres à cette question, d'autres répondent la peinture. Vous, on a surtout l'impression que c'est l'époque, que c'est le monde qui vous entoure. Vous êtes un passionné d'actualité, vous tenez un blog, vous écrivez, vous commentez. On n'a pas le sentiment que vous êtes un réalisateur complètement retranché aussi derrière ou dans son art, que le cinéma vous sert de quelque part de carapace ou de protection par rapport à ce monde. Si on regarde le Bureau des légendes, vous êtes vraiment en prise avec l'actualité, sans pour autant la décliner comme on peut le faire dans une radio ou à la télé. Donc quelle est vraiment votre matière première? Est-ce que vous arrivez à voir ce qui nourrit votre imagination en permanence?
Il y a plusieurs couches, je pense. Il y a plusieurs couches de ce qui nourrit et de ce qu'on a envie de restituer. Alors là, c'est peut-être lié à ma cinéphilie. Je suis né vraiment à la cinéphilie avec le cinéma américain des années 70. Donc c'est voilà, en 70, bon, j'avais 9 ans, donc en 75, j'en avais 5 de plus et j'essaie de faire des calculs rapides. Mais en tout cas, voilà, entre 70 et 80, j'ai vu énormément de films, et surtout des films américains. Et les films américains, à l'époque, avaient cette particularité d'être des films de gens qui venaient du reportage, c'est des films de ciné-lumette, c'est des films américains politiques, c'est des films engagés contre Nixon, contre la guerre du Vietnam. Donc c'est des films aussi qui se nourrissaient du réel, parce que c'était des gens qui avaient fait de la télé, qui avaient fait du reportage, qui avaient fait des documentaires. C'est une stylistique qui utilisait beaucoup les longues focales pour laisser un peu, comme ça, pour filmer de loin, pouvoir être près des personnages, mais en filmant de loin, c'est-à-dire en les laissant un peu, en les laissant évoluer, c'est-à-dire la caméra n'est pas tout à fait à côté d'eux, donc ça c'est aussi du reportage, ce qui fait qu'il y avait une esthétique un peu du réalisme, en fait, une esthétique de la réalité. Et moi, c'est vrai que c'est à cette époque que je suis passé, finalement, avec certitude, du spectateur à l'acteur. J'ai fait Aux yeux du monde en pensant à Un après-midi de chien de Sidney Lumet. J'ai fait Les Patriotes en pensant à plein de films aussi de Sidney Lumet, mais aussi de Pollack, de tous ces films. Et en fait, mon cinéma se nourrit un peu de celui-là. Et c'est vrai que, par exemple, je peux encore me référer à des cinéastes d'aujourd'hui, mais qui sont eux des héritiers de ce cinéma-là. Je pense à Michael Mann, je pense à Catherine Bigelow, par exemple, qui se nourrit de ce cinéma du réel, d'une certaine manière. Alors, ça, il faut l'articuler à autre chose, il faut l'articuler avec un truc d'enfant qui est de raconter des histoires. C'est pour ça que je fais pas du documentaire, presque, d'une certaine manière, et c'est aussi pour ça que je pense pas faire, enfin, je ne fais pas du cinéma, comment dire, naturaliste. Parce que je suis né aussi au cinéma, alors là, c'est un truc d'enfant, c'est-à-dire pour raconter des histoires. Donc, voilà, il y a deux pôles comme ça, c'est l'envie de raconter des histoires, donc il y a vraiment je me plonge comme ça dans la technique narrative et aussi dans le plaisir narratif, mais toujours ancré dans le réel. Voilà pourquoi, finalement, le Bureau des légendes, le Bureau des légendes, comme Les Patriotes, comme Mobius, ce sont des films qui essayent de partir de la réalité, c'est-à-dire de ce qui est en face de nous, sans tellement la déformer. C'est très important pour moi. J'ai toujours préféré les films qui ne déformaient pas la réalité plutôt que ceux qui la déformaient, même de manière politique. J'ai toujours préféré, par exemple, les cinéastes comme Scorsese c'est très politique, mais les cinéastes comme les cinéastes des années 70, comme Sidney Lumet, par exemple, plutôt que Fellini. Mais voilà, c'est un peu ça qui m'a départagé. Donc je suis nourri d'un certain nombre de désirs, le désir de réalisme né du cinéma des années 70, le désir de raconter des histoires né de quelque chose de plus probablement plus enfantin. Et en fait, j'imagine qu'une partie de mon cinéma, c'est un peu les deux ensemble, quoi.
Donc, entre le réel et le film réaliste, il y a la narration, ou en tout cas un processus narratif, une fidélité au réel ou une sincérité par rapport au réel. Ça peut être ça, le style, la patte Rochant.
Oui, il y a en fait. Pour essayer de comprendre un peu comment, enfin, ce que je fais exactement, enfin, ce que je fais pas exactement, mais. Quand le film Les Patriotes est sorti, il a été sous le feu de certaines réserves et de critiques qui l'accusaient soit d'être pro-israélien, soit d'être pro-palestinien. Enfin, d'être trop anti-israélien, montrant le drapeau israélien et montrant aussi comme ça comment le Mossad peut, à ce point-là, faire des choses très méchantes. Et en même temps, on m'a accusé de parler du Mossad et d'Israël sans avoir parlé du problème palestinien. Donc on m'accusait enfin un peu des deux bords. Et ça ne m'étonnait pas, car effectivement, l'intérêt pour moi de parler du Mossad et d'Israël, c'était de montrer ce que c'était que les services secrets, et ce que c'était à la limite, à travers les services secrets, ce que c'était que Israël, et d'avoir cette ligne un peu entre deux eaux, c'est-à-dire entre deux fantasmes et deux idéologies. Bon, bah, évidemment, un monde sans pitié parlait de ça. Un monde sans pitié parlait d'une certaine manière de ce que pouvait être notre existence une fois qu'on n'avait plus l'idéologie, en tout cas communiste, pour nous aider à vivre. Donc, comment on allait faire? Aujourd'hui, le problème n'est plus tout à fait le même. Mais en tous les cas, le bureau des légendes, c'est aussi essayer de tracer cette voie entre différents fantasmes et entre différentes façons de déformer la réalité. Voilà. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que le point de vue des services secrets, en tout cas des services de renseignement dans les pays démocratiques m'intéresse. Parce qu'en fait, moi, l'espionnage, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, c'est pas, je suis pas à ce point. Enfin, on dit toujours, à vous, l'espionnage, c'est votre truc. Bon, c'est pas mon truc. Enfin, oui, c'est vrai, j'ai fait 3 films dessus, mais au bout du compte, c'est le hasard. Mais par contre, ce qui m'intéresse, effectivement, et ça c'est intéressant parce que j'ai pu le développer dans une série, beaucoup plus que dans un film, c'était plus facile dans une série parce qu'il y a plus de temps à le faire, c'est que les services secrets ont un regard sur le monde, dans les pays démocratiques encore, pas dans les pays où l'idéologie pèse, mais dans les pays comme ça, les services secrets sont là un peu pour rendre compte du monde de manière un tout petit peu désidéologisée. Parce que s'ils le montrent de manière déformée, s'ils le montrent de manière trop tendancieuse, ils ne font pas bien leur métier. Ils leurrent leur propre gouvernement. Donc l'intérêt pour les services secrets, c'est d'avoir une vision un tout petit peu plus lucide du monde et presque, je dirais pas objectif, parce que ça n'existe pas, mais en tous les cas, essayer de faire la part des choses. Et ça, c'est un regard qui m'intéresse. Donc en fait, à travers les services secrets, je pense pouvoir poser un regard sur le monde qui est effectivement dénué d'idéologie, en tous les cas dénué de fantasmes, et dénué comme ça de délucubrations qui ne serait que la projection de mes propres idées, de mes propres craintes, de mes propres angoisses sur le monde. Voilà. Et ensuite, il y a toute une éthique de l'écriture. Ça induit une éthique de l'écriture, et c'est vraiment ce que j'essaie de communiquer aux gens qui viennent autour de la table pour les gens qui viennent par exemple écrire avec nous le bureau des légendes, les nouveaux venus. Le plus difficile pour moi, c'est d'essayer de leur communiquer cette éthique narrative, cette éthique d'écriture, car quand on raconte une histoire, on prend une décision, on décide, on arbitre entre différentes options narratives, et c'est là que se joue une certaine éthique. C'est là que se joue, en fait, un ADN de ce qu'on raconte. C'est là que se joue exactement la philosophie de ce qu'on fait. Par exemple, la philosophie du Bureau des légendes. Et à ce moment-là, c'est quand, par Alors, exemple...
Une éthique de quoi? Une éthique de quoi?
Une éthique narrative. Je m'explique en donnant un exemple. J'ai un personnage qui, par exemple, est dans une situation... très compliqué. Je ne sais pas comment en sortir. En général, on fait tout pour se trouver dans cette situation, nous les scénaristes, parce que comme ça, on arrive à intéresser un peu les spectateurs. C'est-à-dire, on met les personnages dans des situations où nous-mêmes, nous ne savons pas comment ils vont s'en sortir. Bon. Et à ce moment-là, on cherche la solution. On cherche la solution narrative. On cherche l'idée. Et c'est là que se joue, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent autour de la table, c'est là que se joue l'ADN de la série. Parce qu'en fait, le type d'idée qu'on va avoir pour sortir le personnage de son problème, pour sortir le personnage de sa situation, le type d'idée qu'on va avoir va déterminer la série elle-même. La série se joue à ce moment-là. L'esprit, l'ADN de la série se joue à ce moment-là. Si on trouve, par exemple, une idée, si on fait, par exemple, intervenir la Providence, voilà. Typiquement, dans ces cas-là, on se dit, ben voilà, il se passe un truc, il prend le machin qui passait juste à ce moment-là, et puis voilà, ça s'appelle la providence. Eh bien, dans le bureau des légendes, la providence, c'est plutôt interdit. Ça arrive dans la vie, donc la providence n'est pas totalement interdite, mais faut pas trop en jouer. Et puis, tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, selon la façon dont on va écrire une scène, va se décider l'esprit même de la série, et c'est là que se joue justement cette idée de rend les choses moins fantasmatiques, plus réalistes. Et c'est vrai que souvent, je dis, par exemple, aux scénaristes avec qui je travaille, je dis, si vous n'arrivez pas à trouver la solution, posez-vous la question, comment ça se passe dans la vie? Comme dans la vie, c'est le principe même d'écriture de la série. Il faut que ça soit à peu près comme dans la vie. Et ça, c'est une boussole. C'est vrai que c'est une boussole. Alors, maintenant, on pourrait dire, comme dans la vie, c'est jamais comme dans la vie, d'abord. C'est toujours un peu triché. Et c'est vrai qu'on triche. C'est vrai que c'est un mensonge. Ça ressemble à comme dans la vie. C'est parce que ça ressemble à comme dans la vie que du coup on y croit et que du coup on peut être ému par ce qui arrive. Moi, j'ai toujours besoin de croire aux histoires qu'on me raconte. Dès qu'on me raconte une histoire et que on sort du réalisme, je n'y crois plus. Et comme je n'y crois plus, bah, je suis plus tellement ému. Voilà. J'ai besoin, pour être ému, d'y croire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques pour le faire, mais c'est vrai que le réalisme, c'est juste une façon de soutenir l'émotion, de la créer et de la susciter.
Vous avez dit qu'en créant, vous êtes aussi dans une recherche de vérité, ou de la vérité. Comment est-ce qu'on peut atteindre une vérité ou sa vérité, tout en orchestrant à l'écran la duplicité, la manipulation, le mensonge, ce qui est en tout cas le cas dans des séries, dans des films, où cet univers d'espionnage que vous évoquez, avec Mobius, avec les Patriotes, aujourd'hui avec le Bureau des Légendes. Comment on articule cette sphère de la vérité avec ce mensonge et cette duplicité en permanence travaillée par la fiction?
Question de la vérité, attention, ça c'est... ça va devenir une question abyssale, hein, je vous préviens, on va tomber dedans tous ensemble. on risque de pas pouvoir remonter. Hein. Je vais prendre 2 secondes pour essayer de trouver par où je vais passer pour l'aborder. En fait, on fait des films pour dire la vérité. Voilà. On va poser ça et après on va expliciter. Donc, on fait un film, on fait des films, on écrit des livres, on crée pour dire la vérité. Car seulement la poésie peut la dire. Donc, pourquoi seulement la poésie peut la dire? Parce qu'en fait, la vérité, c'est quelque chose qui se cache. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la grande différence entre la vérité et la réalité. C'est que la réalité, c'est en face de nous. On la voit. Et tout le problème, c'est de savoir comment la décrire. Donc, on la décrit de la manière la plus, disons, adaptée possible. On essaye d'être juste par rapport à ce qu'on décrit. Mais en décrivant la réalité, on n'atteint absolument aucune vérité. La vérité va venir derrière. La vérité, c'est ce qui est le moteur des choses. Et ça, c'est absolument abyssal. C'est-à-dire qu'on, voilà pourquoi, par exemple, aucune machine ne pourra jamais écrire d'histoire. Et voilà pourquoi nous ne... Et ça, c'est sympa pour nous, parce que comme ça, on aura toujours quelque chose à faire. C'est que voilà pourquoi on ne lira jamais des histoires écrites par des machines. Et on ne regardera jamais des films écrits par des machines. Pourquoi? Parce que les machines ne manquent de rien. Nous, on manque de quelque chose. On manque du sens. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne comprend rien à rien, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, on a besoin... Non, mais... Donnons un exemple. L'amour. Donc l'amour. Alors, si quelqu'un vous dit, mais c'est, en fait, c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? C'est quoi l'amour? Tous les mots qu'on va trouver pour dire, bah, l'amour, c'est ceci, c'est cela, c'est ça, tous ces mots-là seront absolument insuffisants. Et non seulement ils seront insuffisants, mais ils seront extrêmement décevants. Bon. Dans un film, par exemple, on dit, tiens, je vais raconter une histoire d'amour et je vais faire en sorte qu'un tel aime un tel. Je vais le montrer. Je veux montrer que tel personnage aime d'amour tel personnage. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a plusieurs possibilités. La plus littérale étant que le type dise, par exemple, si c'est un type et une femme, le type dise à la femme, je t'aime. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est le truc littéral. C'est l'idée la plus pauvre. Mais ça arrive. Hein.
Mais ça peut être efficace.
Mais à la fin, on pourrait dire, mais en fait, il dit je t'aime. Mais d'ailleurs, moi, excuse-moi, mais en fait, au moment où il dit je t'aime, je pense que quand on dit je t'aime, c'est justement au moment où on n'aime plus. Et en plus, il dit je t'aime, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. Enfin, et souvent, par exemple, des gens disent je t'aime à d'autres, et on a envie de leur dire, mais t'en sais rien, t'es trop jeune, tu ne sais même pas ce que c'est l'amour. Enfin, tu ne sais pas de quoi tu parles. On peut dire ça. Donc en fait, cette idée de dire je t'aime n'est pas une preuve, n'est pas de l'amour. Et donc on continue à creuser, on dit, mais alors c'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, c'est, par exemple, une métaphore. On va le dire par métaphore. C'est le seul moyen d'atteindre la vérité de l'amour ou de n'importe quel autre sentiment. Le seul moyen, c'est de le représenter par une métaphore. De ne pas le définir, mais juste de faire une métaphore, donc une substitution poétique. C'est le seul moyen de faire comprendre ce que c'est que l'amour. Et donc dans certains films, les grands films sont ceux qui renouvellent la métaphore pour parler de l'amour, de la haine, de la jalousie, pour parler de la vie, pour parler de l'engagement. C'est les films. Je parle des films, mais c'est pareil pour les livres. Ce sont des grosses métaphores. Ce sont des métaphores qui nous aident à comprendre ce que c'est que l'amour. Et au bout du compte, l'amour, on le trouve dans les films. On commence à comprendre ce que c'est dans les films, dans les livres, dans les actes poétiques. La poésie, c'est le seul moyen d'atteindre la vérité des choses. Car sinon, on n'a que le langage. Et le langage ne permet pas d'atteindre la vérité des choses. Comme disait Proust, on atteint la vérité des choses par et malgré le langage, à travers le langage. Et donc, à travers, d'une certaine manière, une utilisation du langage. Et quand je parle de langage, je parle du langage cinématographique, par exemple. Donc voilà pourquoi je pense que les films sont là pour dire la vérité. Alors, maintenant, sur le bureau... Vous voyez, c'est quand même... on plonge là. Donc, le bureau des légendes, et donc les patriotes, et donc Mobius... Ça dit pas la vérité sur les services secrets. J'en ai rien à foutre de la vérité des services secrets. C'est pas intéressant. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, j'ai creusé. Et c'est pas par intention. C'est un résultat rétroactif. Hein. C'est que, au bout du compte, on se rend compte qu'à chaque fois, je parle de la même chose. Et d'ailleurs, c'est le même genre de héros. À chaque fois, je parle de la même chose. C'est quoi? Je parle de la tension qu'il y a entre l'engagement et les sentiments. Et les affects. Et donc, finalement, au bout du compte, ça parle de quoi? Ça parle de la tension entre la vie, disons, l'engagement collectif, l'engagement au service d'une cause, et un autre engagement qui est au service de sa propre cause, c'est-à-dire ses propres sentiments. Et finalement, ça, on peut dire que c'est la vérité des histoires que je raconte. Elle est là, la vérité. Ça parle de ça. En fait, à travers cette grande métaphore que sont les services secrets et les films d'espionnage, à travers les films de genre, d'ailleurs. Les westerns parlent d'autre chose que... Les westerns ne parlent pas de cow-boys et d'indiens. Ils ne parlent pas de traversée du désert. C'est à travers la traversée du désert on parle d'autre chose. On parle de quête, on parle d'obsession de l'homme sur par rapport à quelque chose. Donc, au fait, au bout du compte, c'est ça qu'on essaie d'atteindre. Et en fait... Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas intentionnel. On ne peut pas avoir l'intention au départ de dire, tiens, je vais faire un film sur l'engagement. Bon, très bien, on peut avoir envie de faire un film sur l'engagement. Donc on écrit une histoire sur l'engagement, avec quelqu'un qui s'engage, par exemple. C'est un peu pauvre, mais enfin, ça peut arriver. Et donc, on continue, on écrit, on développe un film, et à la fin, le film, il parle d'autre chose. Il atteint une autre vérité. Et on est obligé de l'assumer. Quand on écrit et quand on fait un film, on est obligé d'obéir à ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire à ce qu'on pose sur le papier, à ce qu'on pose sur la table. Ça a une logique et on est obligé d'y obéir. Et à la fin, on a été contraint par nous-mêmes. Mais en fait, on n'a pas été tellement libre. On a été contraint par nous-mêmes et à la fin, on atteint, si on est sincère, on atteint une vérité.
Si on suit votre idée, si on suit le fil, si on prend le bureau des légendes, quelle était du coup l'idée de départ et où est-ce que vous en êtes arrivé? Où est-ce que vous êtes arrivé là pour l'instant? Est-ce que c'est très éloigné de ce qu'était l'idée de départ? Comment est venue l'idée, d'ailleurs, du Bureau des légendes?
Alors, comment vient une idée, déjà? Une idée vient d'un désir. Je pense que les idées ne viennent pas. Les idées ne sont pas dans la nature, et hop, elles arrivent, elles rentrent dans la tête. En fait, au départ, il y a un désir. Et alors, le désir, ce n'est pas la peine de l'interroger, on n'arrivera pas à savoir d'où il vient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au départ, il y a un désir. Ça veut dire qu'il y a un manque. Ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose, on a envie de quelque chose, on a envie de raconter ça, on a envie de décrire quelque chose, on a envie de restituer une émotion. Souvent, ça arrive souvent que, en fait, au départ d'un film, on a envie juste de restituer une émotion. Par exemple, je pourrais dire que tous les films d'espionnage que j'ai fait, j'en ai fait trois, enfin, j'ai fait tous les films d'espionnage. Les films d'espionnage que j'ai fait peuvent venir du désir de restituer ce que j'ai ressenti quand j'ai lu John le Carré. Et j'ai été tellement pris par cette émotion que j'ai eu besoin de la restituer. Toujours le même truc de la maîtrise, comme ça j'aime quelque chose donc j'ai besoin de le refaire. Bon, ça c'est mon problème. Donc On peut dire que c'est né de là. Donc c'est né de ce désir-là. Alors ensuite, ce désir, ça suffit pas. Il faut lui donner une forme. Et c'est au moment où on veut donner une forme à ce désir que probablement on cherche le moyen de le faire. Et cette recherche, alors là, pour le coup, c'est à ce moment-là qu'on a des idées. Donc, mais à ce moment-là, tout donne des idées. Il y a des idées de films que j'ai eues dans la voiture en écoutant la musique, mais ça s'appuyait toujours sur une recherche, sur un désir, sur un désir de faire quelque chose, d'un désir de raconter quelque chose. Après, l'idée, elle vient, on la travaille. Donc, le bureau des légendes, c'est finalement.
Et vous auriez pu adapter la taupe de John le Carré. Choisissez un moment de vous réapproprier, en tout cas, ce désir, cette envie ou ce que ça a pu stimuler.
J'aurais adoré le faire, mais quelqu'un l'a fait avant moi. Mais bon, bah, tant pis, on m'a pas proposé. Je fais mes propres trucs.
Bon, bah, donc vous faites le bureau des légendes.
Non, mais voilà. Dans les idées, quand on a des. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un truc à dire sur les idées quand même. Je fais une petite digression. Un film, c'est toujours la lutte contre la dégradation de l'idée originale. Voilà. Donc, au début, on a une idée. Alors, l'idée, ça peut être quand même plus compliqué qu'un homme aime une femme, mais disons que ce soit ça, mais que c'est ça. Bon, alors, disons que c'est, par exemple, je vais faire un film sur un département spécifique de la DGSE qui s'appellerait le Bureau des légendes et qui enverrait des clandestins en mission longue à l'étranger sous légende. Ok, ça c'est l'idée de départ.
Pas mal.
Génial. Bon, c'est pas une idée d'histoire. Bon. Et bien ensuite, tout le travail qu'on va faire, c'est de lutter en permanence contre la dégradation de cette idée. Parce que cette idée, à chaque fois qu'elle va subir qu'elle va passer les différentes étapes de la fabrication, a toutes les chances d'être moins bien. Voilà. Alors quand on écrit, par exemple, donc on écrit un scénario et on se rend compte que c'est naze. C'est nul. L'idée était bien au départ, mais ce qu'on vient de raconter, c'est pas bien. Et même l'idée, du coup, s'avère même franchement pas intéressante. Et donc, déjà, c'est la première étape. Mais ensuite, une fois que le scénario, on a surmonté. Donc, si jamais on est juste un tout petit peu en dessous de l'idée, on est bien. Parce que franchement, en général, quand on commence à écrire, c'est vraiment très très mauvais. Mais ensuite, faut tourner. Et donc, des acteurs arrivent, le metteur en scène arrive, on commence à filmer. Et là, on a encore une chance d'être encore en dessous. Ensuite, faut monter. Et quand on monte, on a encore une chance de dégrader le truc. À la fin, il faut mixer, etc. Donc, à la fin, on se retrouve à un truc qui est vraiment moins bien que l'idée de départ. Et toute la fabrication d'un film, c'est de lutter contre ce mouvement, qui est obligatoire. C'est la concrétisation des choses rend les choses évidemment moins idéales. Alors, ce qui est bien, c'est que, en chemin, on peut changer d'idée, réaliser que l'idée qu'on avait était pas terrible. Et finalement, on va un peu la changer. Et c'est ce qui passait pour le bureau des légendes, puisqu'au départ, moi, j'avais l'idée de décrire un département, le département qui fabriquait les fausses identités. Je trouvais ça plutôt poétique de faire ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était trop fermé, trop petit, que c'était pas assez riche, c'était pas assez gros de possibilités narratives. Donc voilà. Donc après, en se documentant, en réfléchissant, donc une idée. S'habille de réflexion, de documentation, de poésie sur la base d'un désir.
Voilà. Masterclass avec vous, Éric Rochant. On est encore un peu ensemble. Le passage de la série, ou le passage à la série, justement, après les longs métrages, enfin après d'abord les courts, puis les longs, c'était comme changer de vie un peu pour vous. Ça a été comme une rupture. Vous l'avez vécu comme tel, un nouveau départ dans votre parcours cinématographique, ou au contraire, vous l'avez vécu comme un prolongement. C'est-à-dire tout ce que vous avez appris avec le court, avec le long, est-ce que vous avez pu vous en resservir pour concevoir une série, la produire, ou est-ce qu'il a fallu reprendre tout à zéro?
En fait, je suis venu à la série exactement comme je suis venu au cinéma, par la sériephilie. La même chose. J'ai vu des séries que j'aimais et j'ai eu envie de les faire. J'ai eu envie de faire la même chose, quoi. Donc, quand je vois quelqu'un qui sait très très bien faire du cheval, j'essaye pas d'en faire après, parce que de toute façon, je sais que ça marchera pas. Quand je vois les footballeurs qui jouent super bien, j'essaye pas de le faire non plus. Donc, j'ai conscience de mes limites. Mais disons que là, il y a eu quand même un bouleversement dans le paysage de la création cinématographique. C'est l'arrivée des séries d'auteurs américaines. Bon. Tout d'un coup, bon, pour plein de raisons qu'on va pas analyser ici, les chaînes câblées américaines, pour se démarquer des télés et du cinéma, ont décidé d'investir sur la création d'auteurs. Et la notion d'auteur, aussi incroyable que ça puisse paraître, a été renouvelée aux États-Unis. Cette notion d'auteur qui était tellement mise en avant par la nouvelle vague, hein, auteur-réalisateur, c'est-à-dire qu'ils ont dit l'auteur d'un film, c'est le réalisateur, c'est pas le scénariste, parce qu'avant c'était celui qui écrit. Mais non, le cinéma c'est des images, donc c'est celui qui fait les images. Donc le vrai auteur du film, c'est le réalisateur. C'était vraiment le discours de la nouvelle vague et ce qu'on a appelé ensuite la politique des auteurs. Bon. Eh bien, à un moment donné, on peut imaginer que, je dis pas que ça a atteint une certaine, ça s'est un peu essoufflé, mais ce qui est sûr, c'est que la notion d'auteur a été renouvelée par la série américaine commandée par les chaînes câblées, qui n'avaient pas besoin de plaire à tout le monde, qui au contraire avaient besoin de se démarquer. Et pour se démarquer, ils ont une idée géniale, c'est de juste prendre des auteurs confirmés et de leur dire, vas-y, fais ce que t'as vraiment ce que t'as sur le cœur. Et le discours que les directeurs de chaînes câblées disaient aux auteurs, comme David Simon, comme David Chase, des grands auteurs de séries américaines, c'était de s'exprimer et d'être le plus sincère et proche de ce qu'ils avaient envie de faire. Donc ils ont eu carte blanche, je dirais. Carte blanche, il y a toujours des contraintes. Mais ils ont eu, en gros, carte blanche. Et c'est là, tout d'un coup, que la série et la télévision, on peut appeler ça de la télévision, mais pour moi, c'est pas de la télévision, pour moi, c'est pareil que le cinéma. C'est un autre format. Mais c'est pareil que le cinéma. Parce que la grande différence pour moi entre la télé et le cinéma, au début, je voulais absolument pas faire de télé. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé une série, vraiment, j'y étais à reculons, parce que pour moi, c'était vraiment pas noble, la télé. Pourquoi c'était pas noble? Parce que ça ne partait pas du désir d'un créateur. Ça partait d'une commande de producteur. Pour moi, la télé, c'était en gros des commandes de diffuseurs, des commandes de producteurs avec moins d'argent, donc avec moins de moyens, donc pas bien. Okay. Mais à partir du moment où la série, c'est devenu, non pas une commande, que la commande du diffuseur, c'est de dire, vas-y, fais ce que t'as sur le cœur, vas-y. T'es le mieux placé pour le faire. David Chase était le mieux placé pour raconter cette réalité des mafieux du New Jersey parce qu'il la connaissait. David Simon était le mieux placé pour raconter la ville de Baltimore parce qu'il avait été journaliste là. Donc voilà. Donc à un moment donné, la série est devenue à renouveler la notion d'auteur. La série américaine, les États-Unis dont on se dit c'est Hollywood, c'est le commerce, c'est le cinéma industriel, c'est eux qui ont renouvelé la notion d'auteur. Et c'est eux qui ont renouvelé la notion d'auteur aussi par ce concept de showrunner. Showrunner, c'est quoi? C'est auteur-producteur. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que le créateur écrit la série, pas tout seul parce que faut le faire vite, mais en tout cas il dirige et ensuite il produit lui-même ce qu'il a fait. Il produit de bout en bout, il supervise de bout en bout ce qu'il a fait. Et ça a remis vraiment la notion d'auteur au centre. Donc effectivement, moi je suis né au cinéma aussi avec cette notion d'auteur. On peut dire que j'ai fait des films d'auteur. J'ai pas fait de film de commande. On m'a jamais commandé un truc. Genre, fais un film sur, je sais pas, la Colvézi. Non, c'est toujours parti de mes propres désirs. Donc, il y avait ce côté auteur. Et bien, tout d'un coup, j'ai vu que la série proposait, finalement, presque encore plus, cette possibilité de s'exprimer. Alors, maintenant, il y a une différence entre le cinéma et la série. C'est une différence de format. Bon, le cinéma, c'est un film d'une heure et demie, deux heures. La série, c'est 4-5 saisons de 10 épisodes de 52 minutes. Donc, tout d'un coup, le format est différent. Donc, on peut dire des choses différemment et on peut dire d'autres choses. On peut jouer sur la durée, par exemple. On peut créer son propre passé. Dans un film de Sergio Leone qui s'appelle « Il était une fois l'Amérique », qui dure 4 heures, enfin, il faut un peu de temps, c'est vrai que au deuxième tiers du film, les personnages font référence à leur passé, et nous, on a été contemporains de leur propre passé. Donc, on est contemporains du temps narratif et qui produit son propre passé. Donc, tout d'un coup, on produit des souvenirs qui appartiennent au film, pas des souvenirs abstraits, des souvenirs dont on a été contemporains. Donc, ça, c'est bien parce que la série permet de ça. Donc, la série permet de raconter des choses qui épousent le temps, permet de raconter des choses très fines, parce qu'on a le temps de les raconter, parce qu'au cinéma, on est obligé de trouver des métaphores percutantes, parce qu'on a peu de temps. Mais dès qu'on a du temps, on peut raconter d'autres choses. On peut avoir un grain plus fin, par exemple, sur les sentiments, sur l'existence. Et c'est vrai que la série, comme ça, la série d'auteurs, disons, permet peut-être d'épouser le temps de la vie un peu mieux que le cinéma. Parce que, alors, c'est un autre type de poésie. Comme c'est un autre format, c'est un autre type de poésie. Donc pour moi, c'est finalement, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un format différent qui permet de raconter des choses différentes.
Et alors, vous vouliez faire une bonne série française, mais mieux que les séries françaises existantes. Et pour ce faire, vous vous appuyez sur votre cinéphilie des séries assez américaines, malgré tout ce que vous évoquiez. Vous importez aussi les méthodes américaine, c'est-à-dire ce statut de showrunner qui existait peu ou pas avant vous en France et qui vous permet de partager, de superviser le travail tout en le partageant avec des pôles, des poules d'auteurs, des réalisateurs qui peuvent changer d'un épisode à l'autre. C'est-à-dire que vous ne fabriquez pas vous tout de A à Z, mais vous supervisez tout. Et au final, ce qui est intéressant avec le Bureau des Légendes, c'est que ça reste une série française. Vous arrivez à savoir pourquoi ? Elle pourrait être adaptée aux États-Unis, ça donnerait quelque chose d'autre.
J'imagine, parce que je suis français, peut-être. Donc du coup, j'ai mes propres références, mes propres obsessions. Voilà, il y a un truc existentiel qui peut-être n'y a pas chez les Américains, mais je crois que la notion de showrunner est vraiment liée à la façon de fabriquer. En fait, c'est lié au fait qu'il faut produire une saison par an. Comme il faut produire une saison par an et que c'est 10 épisodes de 50 minutes ou d'une heure, un homme seul ne peut pas faire ça. C'est pas humain de faire un truc pareil tout seul. Et donc, en France, on a toujours pensé qu'il y avait comme ça un auteur, un réalisateur. Ça prend 2 ans et il n'y a pas d'unité. C'est vrai que quand je me suis dit, bon, moi je vais faire des séries, mais je vais faire des séries comme celles que j'aime. Donc, comme celles comme Les Sopranos, comme The Wire, comme Mad Men, comme The West Wing, qui est aussi une grosse référence pour le Bureau des Légendes. Donc, j'ai envie de faire des séries comme celles que j'aime. Donc, je me suis dit bêtement, on va appliquer la méthode des gens qui ont fait ces séries. Comment ils font? Comment ça marche? Comment c'est organisé? Comment ils font pour faire une série par an? Enfin, une saison par an? Comment ça marche? J'ai bêtement copié. En me disant, c'est pas ça qui va faire que la série est bonne, mais au moins, ça a l'air d'être une bonne méthode finalement pour faire des choses bien. Donc là, pour le coup, j'ai été chercher la bonne méthode, hein, c'est tout.
Et alors, ce rythme qui est assez intensif, ça, c'est un rythme qui vous oblige, Éric Rochant, qui vous contraint d'une certaine manière.
Oui, c'est une horreur, hein, de faire un truc pareil, parce que franchement, quand vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose à changer dans votre vie, ben oui, enfin on n'a plus de vie hein, quand on fait ça. C'est que c'est une supervision permanente de tout, donc écriture, réalisation, préparation, casting, montage, post-production, mixage, musique, on fait tout. Heureusement qu'il y a des gens qui font, mais on fait tout parce qu'en fait on fait attention à chaque seconde de fabrication, car on est le seul garant que chaque seconde de fabrication on reste dans l'esprit de la série.
Vous êtes garant de l'unité.
Et je lutte contre la déperdition de la qualité. Enfin, au départ il y a l'idée, et là alors, comme en plus on délègue, on fait attention à tout. Et c'est vrai qu'on est un peu obsessionnel, mais on peut pas faire les choses nous-mêmes, mais par contre on peut faire attention, on peut donner la direction et on peut rectifier. Ça m'arrive de regarder des rushs le soir, c'est-à-dire de ce qui a été filmé la veille, de voir qu'un acteur est parti sur une interprétation de son personnage qui risque de poser vraiment des très gros problèmes et surtout de foutre en l'air de un certain nombre de scènes qui vont arriver. Donc bon, ben si c'est pas trop grave, on retourne pas, mais on fait attention. Donc c'est vrai que ça peut m'arriver d'aller voir l'acteur et de lui dire attention, t'es en train de faire un truc là, ça il faut revenir, voilà. Donc on rectifie les directions. Voilà.
En même temps, il y a quelque chose d'assez confortable dans le principe de la série, c'est que d'une saison à l'autre, on reprend les mêmes personnages, on les reprend là où on les a laissés, avec leur personnalité qui, logiquement, au bout d'une saison, est déjà pas trop mal campée. Ils ont aussi vécu déjà un certain nombre de choses, donc on repart quand même avec des acquis, et contrairement à un nouveau film, on repart complètement de zéro. Comment vous faites-vous pour ne pas vous user sur une série? Est-ce que vous arrivez toujours à vous surprendre?
Non,
à vous renouveler?
Non, j'y arrive pas. non. Chaque année, c'est une tannée. Franchement, c'est cette année, c'est affreux.
Donc là, vous travaillez sur la saison 4.
Je travaille sur la saison 4, mais c'est une torture. Bah, en plus, moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est réellement, vraiment, enfin, je déteste ça, hein, en fait. Non, mais c'est vrai, je déteste écrire, c'est une torture permanente. Moi, je préfère, c'est très douloureux. Mais alors là, pour le coup, quand on écrit, on est vraiment seul avec ses propres, sa propre impuissance, quoi, en fait. Donc, on est obligé de la lutter contre elle et on n'a pas d'autre moyen, enfin, on n'a rien pour le faire. On est vraiment seul. Alors là, pour le coup, ça c'est la vraie solitude. C'est pour ça que, effectivement, c'est peut-être pas mal d'être à l'avoir d'une famille de cinéma parce que ça permet de, mais en même temps, de toute façon, on est toujours seul. On cherche une scène, on ne la trouve pas. Tout ce qu'on écrit est nul. Ça sert à rien d'aller appeler un copain pour dire, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Enfin, ça marche pas du tout comme ça. Donc, on peut aller voir, aller prendre un pot avec son copain. Juste oublier qu'on est seul, mais qu'on revient, on revient, et on est toujours tout seul avec son truc.
C'est pour ça que vous êtes venu nous voir aujourd'hui, en fait, sur France Culture.
Ah bah c'est un plaisir. Alors là, vraiment, je suis tellement content d'être là, ça me permet. Et si ça se trouve, Oui, non, ouais. Mais si ça se trouve, en sortant de là, je vais avoir l'idée qui me manque. Car c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de boucler un épisode. Alors, il se fait que là, c'est moi qui l'écris. C'est pas toujours moi qui l'écris, mais celui-là, c'est moi qui l'écris. Je suis en train de boucler un épisode, il me manque un truc. Une idée sur une scène. J'ai fait tout le reste, ça va, c'est à peu près, c'est bon. Et là...
Bah dites-nous, c'est quoi ce truc? On peut peut-être vous aider, non?
Je vais pas tout vous spoiler, c'est pas possible. Là, je vous gâche tout, c'est pas possible. Mais il me manque un truc. Alors, j'ai assez d'expérience pour savoir que c'est pas la peine de... Alors ça, je le dis aux jeunes scénaristes, je le dis souvent, mais voilà. C'est pas la peine de s'affoler quand on ne trouve pas, quand l'idée n'arrive pas. On a un désir, mais on n'a pas d'idée. Donc, quand ça n'arrive pas, c'est pas la peine de s'affoler. Elle va venir. Elle va venir. Il faut l'attendre. Et c'est vrai que quand on est jeune, on est complètement angoissé. C'est horrible. Alors là, on est mal, on se sent mal. On a des stigmates physiques, on a des symptômes. C'est absolument ignoble. Et c'est vrai que là, des fois, par exemple, quand on cherche un scénario, c'est le même ordre d'idée. Franchement, je ne suis plus affolé quand pendant 3 mois je ne fais rien. C'est pas affolant parce qu'on a une idée de film, Les Patriotes ou Mobius ou d'autres trucs. On a une idée, on a à peu près un truc d'histoire, et puis ça marche pas, c'est naze, c'est ridicule, ça ne correspond pas à l'idée qu'on se faisait du film, et donc on n'y arrive pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et surtout, c'est qu'on se sent super coupable parce qu'on n'écrit pas. On peut pas se mettre à son bureau pour écrire, car on n'écrirait rien. Donc, du coup, on n'écrit pas. Donc, on va au cinéma, on va au restaurant, on fait des trucs, machin comme ça. Et on se dit, mais c'est horrible. Je suis payé pour rien faire là. C'est pas possible. On se sent complètement coupable. Mais non, il faut pas. Faut pas sentir coupable, car ce temps de latence est extrêmement important. Je suis plus affolé par les temps de latence. Par exemple, aujourd'hui, peut-être qu'en sortant de là, je vais avoir l'idée qui manquait.
On sera crédité au générique. Voilà. Promettez-le. Si vous la trouvez.
Si je l'ai, je dis que ça allait naître ici. Ouais.
Hein? Voilà. Bon, en attendant, on peut se dire que la série, c'est aussi quand même une ouverture du champ des possibles narratifs, pour reprendre un mot que vous aimez bien, Éric Rochant. Du coup, on dit quoi? Tant que ça marche, vous allez continuer? Ou la saison 4, ce sera la dernière? Vous en fixez 5? Quand est-ce qu'on sait? Quand une série est terminée, quand est-ce qu'on l'arrête?
D'abord, une série, ça peut se donner, hein, ça peut se refiler. On peut refiler le bébé, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que c'est vrai que, par exemple, James Bond, c'est pas une série, mais il y a un concept, il y a une sorte de truc qui marche tout seul, hein, donc d'autres personnes peuvent faire un James Bond, et même d'autres acteurs peuvent le jouer. Donc, du coup, il y a un truc qui survit. J'espère que, enfin, il est possible que ça survive à ma présence dans la série. Bon, moi-même, je sais pas à quel moment je vais me ressentir. Là, je touche le fond. Donc, il est probable que pour la prochaine saison, ce soit plus compliqué. On sait jamais, mais il faut toujours, effectivement, quand même renouveler le désir. Enfin, c'est ça le truc, c'est renouveler le désir. Pour renouveler le désir, il faut renouveler l'intérêt et voir un peu. Quel compte on peut y trouver. C'est vrai que saison 3, saison 4, pendant 3 saisons, on a finalement trouvé notre compte. Je dis nous parce que je suis pas tout seul à l'écrire. Je suis en particulier avec Camille de Castelnau quand même. On a une équipe et j'ai quelqu'un avec moi pour qu'il écrit avec moi. Mais on a besoin de retrouver. On a besoin de trouver notre compte. Ça veut dire quoi? On a besoin d'avoir un désir. On a besoin d'avoir un manque, de se dire ça on n'a pas réussi à le faire, ça on l'a pas fait, et ça on a absolument pas envie de raconter les mêmes histoires, de rechercher, de fouiller les mêmes thèmes, de fouiller les mêmes émotions. Alors qu'à la fin, on raconte la même chose. Alors qu'à la fin, de toute façon, c'est sûr que la saison 4 va dire la même chose que les autres saisons, parce que c'est ça l'intérêt d'une série, c'est qu'une série, ça revient toujours à la même place. C'est ça l'intérêt d'une série. En fait, on tourne en rond. Mais en tournant rond, on creuse. C'est ça exactement une série. Et on creuse quoi? Et on creuse un truc qui a à voir avec la vérité. Une série permet probablement avec le temps de dire peut-être plus profondément la vérité sur les choses, parce que on creuse. Et c'est vrai qu'on creuse. On creuse quoi? On creuse des sentiments, on creuse une vie, on creuse une existence. La série justement permet de raconter une existence. David Simon, à travers la série The Wire, a creusé l'existence d'une vie, l'existence d'une réalité extrêmement complexe entre le politique, le policier et la misère. Donc il a creusé ça. Et en fait, The Wire, c'est une grande métaphore sur ce que peut être la société dans une ville où se côtoient des choses aussi extraordinaires que justement que la politique, que le journalisme, que la misère, que le trafic de drogue. Il creuse une description, et en faisant ça, il atteint probablement une vérité sur ce que c'est que la politique, sur ce que c'est que l'ordre, sur ce que c'est que le trafic de drogue, sur ce que c'est que l'exclusion. The Wire, c'est une série sur l'exclusion. A priori, on ne pourrait pas le penser. Donc voilà. Donc, il faut quand même trouver son compte et trouver le moyen, finalement, d'avoir envie et d'avoir un manque. Donc en fait, on cherche le manque qu'on peut avoir et ensuite, et après, il faut avoir les forces. Faut avoir la force de trouver l'idée. Pas évident.
Donc vous pourriez aussi commettre une forme d'infidélité à cette série, le Bureau des légendes, pour aller en concevoir une autre, aller en produire une autre en parallèle, ou vous pourriez pas avoir...
Bien sûr, on fait deux séries en même temps, c'est très facile à faire. Bien sûr, on n'a pas de vie en faisant une série, donc faisons-en deux, comme ça sera réglé.
Non, mais il y a quand même un projet que vous avez depuis longtemps,
oui.
Qui vous tient à cœur.
Oui.
Est-ce que celui-là, vous allez essayer de le porter aussi jusqu'au bout?
Oui.
Alors, donc il y a encore une envie de série.
Ah non, mais de toute façon, il y a une envie de série, il y a des envies de film, heureusement. Il y a encore des envies... Tout ça parce que j'ai absolument pas fait tout ce que j'avais à faire. Et puis de toute façon, ça ne s'arrête jamais. Normalement, ça se renouvelle. Il suffit de vivre. Il suffit de vivre pour avoir envie de raconter, envie de soit de raconter les mêmes choses, soit de raconter de nouvelles choses, soit d'atteindre, soit d'essayer de choper un truc qu'il y a dans la vie, dans notre vie. C'est normal. En plus, notre existence, nous, on avance. Donc, plus on avance, plus on a envie de raconter des nouvelles choses. Mais c'est vrai que moi j'ai un projet qui s'appelle The Oligarchs, qui est sur les oligarques russes des années, donc de la fin du communisme, comment certaines personnes se sont sorties du communisme et en même temps sont devenues des hyper-capitalistes et étaient des gens qui n'avaient pas d'avenir dans le système le plus fermé au monde, qui était le système soviétique, et qui finalement, à la fin, ont acheter la Russie. Donc ça m'intéresse, ce cheminement m'intéresse, et à travers ça, il est probable que ça va être une réflexion. Je dis ça comme ça parce que je fais un peu le critique de film de mes propres projets, donc comme ça c'est plus facile. Ça sera peut-être une réflexion sur ce que c'est que les valeurs, et en particulier une réflexion sur ce que c'est que la notion de valeur et les différentes valeurs qu'on défend, pour lesquels on sacrifie des choses, parce que quand même, je vais pas raconter tout le truc qui m'intéresse dans cette série sur les oligarques, mais enfin, en fait, ce passage ultra rapide de la société communiste, enfin socialiste, non soviétique, à l'ultra-capitalisme le plus sauvage, parce qu'on a pensé que c'était comme ça, c'était vraiment des hommes d'affaires sauvages, c'est évidemment, il y a une réflexion sur ce que sont les valeurs des uns et des autres, quoi. Voilà, je n'ai pas réussi très bien vendre le truc, mais enfin, c'est pas grave.
ça va être super. Deux, trois questions très rapidement, parce qu'on arrive au bout de notre heure. Okay. Au bout de notre série, pas du tout. Oui, non, je voulais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment de progresser toujours encore ? Oui, non ?
Ouais.
Est-ce que vous êtes souvent trompé, Éric Rochant ?
Je me suis trompé, on se trompe tout le temps. En fait, on se trompe tout le temps, mais heureusement, on se réduit pas à ses erreurs. Heureusement, il y a autre chose.
Est-ce qu'il y a l'un de vos films que vous aimeriez faire complètement disparaître de votre filmo ou refaire totalement autrement ?
Ça, c'est le cauchemar permanent de revoir les films et de se dire « mais c'est pas possible, comment j'ai fait un truc pareil ? Il aurait suffi de ça, de déplacer le truc, là. » Non, mais on fait des erreurs, c'est normal, on fait des erreurs parce qu'on a des désirs et puis on sait pas très bien comment les réaliser, comment y répondre. Et puis en plus, les désirs, on les connaît pas. On ne sait pas. La pire question qu'on peut poser à quelqu'un, c'est, enfin quelqu'un comme moi par exemple, c'est de dire « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» C'est affreux, ça. Quand on vend son projet à un producteur ou un diffuseur et que le mec il nous dit « mais en fait, réellement, c'est quoi que tu veux faire ?» C'est impossible, c'est une réponse absolument impossible. On peut pas y répondre à un truc pareil. Donc, on navigue à vue, avec son propre désir qu'on connaît pas vraiment. On sent le truc, on suit une ligne qui change ensuite, qui s'enrichit. Et là-dedans, il y a aussi des erreurs parce qu'on fonce. Et aussi parce qu'il y a quand même une chose qui est importante, c'est que quel que soit le cinéma ou la série, c'est que c'est de l'ordre de la performance. Quand on fait un film, on n'a pas 20 ans pour le faire. 20 ans pour le faire, c'est génial. On revient en arrière, on change, on gomme. C'est pas la même chose. Il y a une histoire de performance. Et c'est ça qui change tout quand on fait un film ou qu'on fait une série. C'est que le tournage, par exemple. Alors, l'écriture, évidemment, on peut mettre 20 ans à écrire et refaire toujours. Et en fait, à chaque fois, on n'améliorera rien. On fera toujours, à chaque fois, quelque chose de différent. Mais quand on tourne, c'est 5 semaines de tournage, 10 semaines de tournage. Et là, faut être bon tout de suite au bon moment. Et donc là, c'est là aussi que le réel s'insinue dans sa propre subjectivité, donc c'est plutôt bien, mais c'est là qu'on rate. C'est là qu'on peut tout rater. Parce qu'on est obligé de prendre des décisions très rapidement.
On peut terminer sur une autre question abyssale. Oui. Au fond, Éric Rochant, pourquoi vous faites tout ça ?
J'imagine que c'est pour être aimé.
Merci beaucoup, merci mille fois à vous, Éric Rochant. Merci beaucoup. Merci à vous.
C'était la masterclass d'Éric Rochant avec Olivia Gesbert. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Gergaillan.